Bonsoir cher Xavier.
Bonsoir Arnaud.
Alors, nous n'oublions jamais les traducteurs dans cette émission. D'ailleurs, je sais que ça leur fait plaisir, mais c'est surtout pour rendre grâce à leur travail. Mais ce soir, on s'intéresse aussi, et c'est vrai qu'on en parle forcément moins dans une émission consacrée à la littérature, et pourtant, aux correcteurs, Xavier.
Les correcteurs, les traducteurs, ensemble, en fait, puisqu'ils sont environ 4000 de ces professionnels de la littérature à être affiliés aux AGESA, en tout cas, ils renouvellent en ce moment ensemble leurs appels quant à la précarisation croissante de leur métier. Ils étaient ainsi une quarantaine encore le 23 mars au Salon du Livre à Paris, a manifesté devant le stand du syndicat national de l'édition. Ils étaient une quinzaine en novembre lors de la remise du Goncourt devant Drouan pour chanter « Merci patron de l'édition » pour appeler à des négociations avec les éditeurs. Ce qui est en cause, notamment d'après Actualité qui cite là un collectif de travailleurs à domicile, les TAD, ce n'est pas que les demandes de traduction diminuent. Elles représentent selon Le Monde 18% des publications pour 22% du chiffre d'affaires des éditeurs. Non, c'est un problème industriel assez classique, mais qui touche maintenant l'édition puisqu'elle externalise de plus en plus ses fonctions de correction et de traduction. Ainsi, les effectifs des services internes auraient fondu à minima de 50% en 10 ans, dit ce collectif TAD, et il poursuit, les dinosaures en poste ne peuvent pas être mis en surtravail, et alors qu'à l'inverse, il faudrait environ 6 livres par an pour vivre de son métier, explique une correctrice interviewée il y a quelques jours par Actualité. Elle explique aussi qu'elle joint les deux bouts avec les aides du Centre national du livre et les bourses. Le résultat donc pour ces correcteurs et traducteurs, ce sont des volumes d'heures et des revenus en baisse, et je cite encore, le recours systématique au statut d'auto-entrepreneur, dit une correctrice là. Même chose du côté des traducteurs, sur le site de la Société française des traducteurs figure depuis quelques jours un guide sur les droits des micro-entrepreneurs. La précarisation des correcteurs se voit de plus en plus dans les grands groupes comme Albin Michel et Hachette, mais aussi au sein des petites maisons très à gauche qui brandissent le poing dès qu'il y a une cause un peu sociale, affirmait une manifestante devant Drouan. Pour les livres eux-mêmes, le risque est que la qualité se dégrade, explique Actualité, citant le roman Millennium, bien sûr, objet de remarques de lecteurs et évoquant des cadences de travail trop rapides pour bien faire. Dans un billet sur le site de l'Association des traducteurs littéraires français, la TLF, en 2014, l'écrivain Edith Zonkind évoquait, je la cite, un phénomène Harry Potter où les éditeurs français auraient été doublés par nombre de lecteurs français impatients de connaître la suite, qu'ils ont alors acheté en anglais, puisqu'elle n'était pas disponible en français. Aujourd'hui, des sites de lecteurs méticuleux, d'ailleurs, consacrent des pages entières aux erreurs de traduction dans Harry Potter. Et plus largement, je me suis aperçu, pas moi, que certains éditeurs faisaient parfois l'impasse sur l'étape de la correction, alors que le surcoût occasionné par la relecture ne me semble pas prohibitif en regard de la qualité du produit fini. C'est ce qu'expliquait la correctrice chère à Actualité, qui travaille, elle, pour un éditeur breton. Alors il faudrait certainement nuancer, distinguer. Toutes les maisons ne sont pas réfractaires à ce qu'on appelle les bonnes pratiques hein, en matière d'emploi de traducteurs et correcteurs, et toutes ne publient pas à la chaîne non plus. La situation est différente aussi pour les correcteurs et les traducteurs. Les traductions, par exemple, soulignait Le Monde le mois dernier, sont même parfois l'occasion de rééditions très mises en valeur, comme La Montagne Magique chez Fayard par Claire de Oliveira, ou les traductions des éditions Actes Sud ou POL qui, je cite Le Monde, mettent un point d'honneur à inscrire le nom du traducteur sur un bandeau ou la couverture. Plus récemment, c'est le cas aussi du Vieil Homme et la Mer qui a été mis en valeur, réédité par Gallimard, traduit par Philippe Jarowski, qui en fait la préface d'ailleurs en forme d'éloge et défense de la traduction. Le résultat est stupéfiant, dit l'AFP. Le texte retrouve dans son dépouillement extrême toute sa dimension héroïque et tragique. Alors la question est double. À côté de ce qu'on pourrait appeler ces Rolls-Royce de la traduction, les livres sont-ils condamnés aujourd'hui dans ce climat à être moins bien traduits et moins bien corrigés avant, et puis un peu plus vicieux, y a-t-il des livres qui méritent moins que d'autres d'être bien traduits?
C'est une question vicieuse. C'est plus une question économique. Vous faites référence à Harry Potter. Il me semble me souvenir que pour le dernier, au moins, il y avait plusieurs traducteurs qui traduisaient chacun des chapitres pour que ça aille plus vite. Donc, effectivement, au niveau de l'unité stylistique, on peut être large, s'interroger assez largement. Mais alors, traducteur et bien correcteur, ce ne sont pas les mêmes métiers. Hein, je n'apprends rien à personne. Par quel bout est-ce qu'on le prend? Par Elisabeth Philippe, la question de la traduction nous concerne plus directement.
C'est une question qui revient sur le devant de la scène assez régulièrement, mais je trouve que c'est assez symptomatique de ce qui se passe partout ailleurs. On pourrait aussi faire la comparaison avec la presse. On a l'impression que maintenant, c'est des métiers accessoires ou périphériques. On peut, voilà, on voit qu'en termes de coûts et pas en termes de... Vous parliez du produit fini ou une des personnes que vous citez parlait du produit fini. Et c'est au détriment, effectivement, du livre, je pense, que de dégrader comme ça ces métiers-là, de les sous-payer. Il y a des articles sur la possibilité de maintenant faire traduire des textes par des robots. Il y a un candidat malheureux à l'élection présidentielle qui parle de taxes sur les robots. Non, mais je crois qu'il y a une vision tellement comptable maintenant, aussi bien dans l'édition, mais je fais vraiment le parallèle avec la presse parce que je trouve que ce sont des phénomènes assez semblables. Et après, on comprend pas, ben, y a de moins en moins de lecteurs. Ben oui, mais si ce qu'on donne à lire est de moins en moins bon, si la qualité est de moins en moins bonne, voilà, je pense qu'il y a une logique à tout ça. Donc, c'est important que ces voix se fassent entendre régulièrement. Je me souviens que les correcteurs avaient aussi fait signer une pétition, les correcteurs précaires, il y a 2 ans. C'est effectivement des métiers invisibles, mais je trouve que, oui, quand c'est très désagréable de lire un livre où il reste des coquilles toutes les 2 lignes, où on sent les erreurs de traduction. Et c'est vrai que les retraductions que vous évoquiez sont nécessaires, et c'est souvent des redécouvertes des livres. Je me souviens de la dernière traduction de Jean-Pierre Carasso, qui avait retraduit un livre de Hubert Selby Jr., dont le titre m'échappe au moment présent, mais c'était plus que nécessaire, tant il y avait d'erreurs qui étaient faites. Donc c'est un problème important, et je pense qu'il faut soutenir ces professions.
Oui, les nouvelles traductions sont autant de nouvelles œuvres. Hein. Oui,
bien sûr.
On dit souvent que le traducteur sort presque un co-auteur, mais si on s'éloigne de la littérature vraiment proche, les traductions de Shakespeare sont toutes intéressantes, et évidemment, Bonnefoy et Markowitz,
ce sont
des œuvres absolument différentes. Là, c'est une langue poétique, et l'enjeu est encore plus grand, mais c'est vrai qu'il y a quelques rééditions, nouvelles traductions sur lesquelles il y a un peu plus de projecteurs. C'était le cas de Gatsby, ou Quand c'est Marie d'Ariussec, ou des choses comme ça, avec des bonheurs différents. On en a parlé ici, on pourrait en reparler, mais il y a aussi tous ces écrivains et écrivaines, je pense à Agnès de Sarthe, à Valéry Zenati, pour qui c'est aussi un vrai métier, en dehors de leur œuvre propre, que de traduire les œuvres des autres, et qui sont des passeurs et des passeuses essentielles, hein, Florent Georgesco.
Je vous évoquais Shakespeare, il y a une personne assez amusante qu'on voit tourner sur les réseaux sociaux qui s'appelle L'Indéprimeuse, qui a publié récemment, qui a mis en ligne récemment une traduction d'Hamlet faite automatiquement par Google.
C'est vrai.
Le titre est « Jambon laissé ».
Jambon laissé, Hamlet.
D'accord. Donc je pense qu'on a un tout petit peu de marge encore avant les traductions automatiques. Et ce rêve que peuvent avoir certains, en effet, de se passer de ces coups-là, parce qu'au fond, ça compte pas, est un rêve extrêmement absurde, en effet. On le montre par ça. Cela dit, vous êtes peut-être un peu optimiste, Elisabeth, quand vous dites que la mauvaise qualité peut éloigner le public. J'ai l'impression que le raisonnement économique est fondé malheureusement sur une expérience qui est que des livres torchés, si je puis me permettre.
comme vous voulez.
Merci.
Vous le gardez pour vous.
Peuvent avoir autant de succès que d'autres parfaitement travaillés. Et on peut avoir l'impression, quand on fait de l'édition, qu'une part de son travail est de l'ordre de l'acte gratuit. Et qu'au fond, ça n'y changerait rien. Je vous le dis un peu d'expérience. On a parfois le sentiment quand même que... Et là, on citait Harry Potter, ce sont des conditions économiques absolument uniques. Donc c'est au fond pas le plus pertinent. Mais pour une production plus courante, beaucoup de choses qui sont vraiment mal travaillées. Je pense à la correction, parce que c'est en effet un sujet très intéressant important. Ne rencontre pas moins de succès, y compris auprès de nous autres, de succès de presse, que des livres qui sont parfaitement travaillés. Donc, malheureusement, ça pousse une partie du métier à en tenir de moins en moins compte. Parce qu'on voit pas de différence quand on regarde les courbes de chiffres. Et c'est un vrai problème, ça. C'est un vrai problème qui aboutit en effet à une négligence du travail de correcteur, du métier de correcteur, qui est assez ruineuse pour la valeur des textes. Mais est-ce que c'est ruineux pour la valeur économique des choses? Malheureusement, je n'en suis pas certain. Et ça, c'est très inquiétant.
Xavier Martinet.
Oui, précisément, dans un deuxième problème, dans ce que vous évoquiez, Elisabeth, qui avait toujours besoin, bien sûr, de traduction pour les nouvelles œuvres, besoin de retraduction également. Je me demandais, quand on voit effectivement qu'on retraduit aujourd'hui Hemingway, qui avait une traduction, on pourrait dire, historique, française, et quand on voit pourquoi il est retraduit, c'est-à-dire parce que, notamment, je lisais dans la dépêche AFP qu'on avait fait parler à l'époque, le pêcheur Santiago avec, je cite, un accent pittoresque presque totalement absent du texte original. On voit qu'il y a eu une intention quand même délibérée de tromper cette simplicité originelle. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de grandes œuvres historiques qui ont leur traduction historique en France et qui mériteraient aujourd'hui qu'on revienne dessus aussi voilà,
c'est Elisabeth Philippe.
Il y a les exemples célèbres des séries noires traduites n'importe comment.
Les Hamet, les Chandler.
Librement adapté.
Ça, le travail a largement été fait.
Oui, voilà.
Ça, oui, il y en a eu beaucoup.
Il y en a eu vraiment énormément. Je pense qu'il y a toujours le grand débat sur Moby Dick, avec la traduction de Giono. Oui, très certainement. Et puis, souvent, il y a des problèmes de droit aussi qui rentrent en ligne de compte, qui peuvent expliquer des retraductions. Je crois que ça a été le cas pour tous les romans de Calvino récemment. Il me semble que c'était une question de droit. Donc oui, bien sûr qu'on peut même retraduire à l'infini. C'est ce que certains traducteurs me disaient. Après, il y en a qui sont plus ou moins justifiés. Mais il y a aussi toute une redécouverte des textes de Dostoïevski quand ils ont été retraduits.
Oui, par souci de réinterprétation et de clarification, en fait.
Et aussi, il y a des effets d'époque. Et donc de mode.
Oui, qui valent pour aujourd'hui.
On peut aussi, pour prolonger votre question, Xavier, imaginer les textes qu'on vient de retraduire et qui auront besoin d'être traduits dans 20 ans, parce qu'on les a simplement soumis à une mode stylistique ou à une mode interprétative.
Qui nous semble absolument objective et qui n'est évidemment forcément pas.
Mais il y a aussi une professionnalisation.
C'est la naïveté du présent.
C'est la naïveté du présent.
Ça sera moins en moins nécessaire, étant donné aussi la professionnalisation des traducteurs, qui est quand même, somme toute, assez récente.
Oui, ça, c'est un fait. C'est vrai qu'il y avait une liberté dans la traduction il y a 50 ans qu'on n'a sans doute plus aujourd'hui. Mais il y a quand même, pour parler de manière pédante, il y a une épistémée d'époque. Enfin, il y a une manière de penser le texte qui peut n'appartenir qu'à une époque et qui peut faire, dans certains cas, ça peut être un effet pervers, cette professionnalisation. Il faut parfois se méfier d'une réflexion trop poussée. Écoutez, on ne sait pas d'ouvrir un vaste débat sur certains sujets brûlants, mais moi, je n'ai jamais été convaincu, par exemple, par le corpus théorique de Markovitch dans ses traductions de Dostoïevski. Voilà, le rapport à la langue étant à la langue russe en l'occurrence et à ce qui doit en passer dans la langue française est un problème théorique qu'il traduit concrètement dans ses traductions avec un immense talent et un immense professionnalisme évidemment, mais on peut aussi renverser certains de ces principes théoriques au point de se demander si finalement, ce qui a été mon cas, pour tout dire, il ne vaut pas mieux revenir à des traductions anciennes où un voile que une théorisation, à mon avis, parfois abusive, jette sur le texte, où ce voile disparaît, où enfin, finalement, et paradoxalement peut-être, on retrouve un tout petit peu plus la puissance des textes.
En attendant les prochaines traductions. Oui, mais je suis d'accord avec vous, je l'ai d'ailleurs souvent posé aussi. La question aussi, c'est une émission de théâtre aussi dont on en parle souvent, que ce soit toujours les traductions de Markovitch. Oui. Au détriment au théâtre, de toutes les autres. Sur Shakespeare, il y a la guerre d'Épra Markovitch, mais sur les Russes notamment, c'est vrai que pourquoi ne devrait-on toujours se référer à tel ou tel traducteur, aussi talentueux soit-il ou soit-elle, c'est pas la question. Bon, ces questions sont loin d'être refermées, on sera amené à en reparler.